grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Vous le savez, que vous ayez des enfants ou non, l'éducation parentale est plus que jamais un métier ardu, soumis à une rude compétition et à un culte de la performance plus ou moins conscient. Il existe en l'espèce quantité d'ouvrages, de formations, de coaching, avec en sourdine la peur de rater une mission devenue sacrée, assurer l'épanouissement des enfants et les rendre heureux. Et si l'observation du comportement des animaux nous aidait à accomplir cette tâche difficile? Le règne animal présente de nombreuses similitudes en matière d'éducation et d'apprentissage. Vous verrez que les renards, les loutres, les macaques peuvent nous inspirer. Nous essaierons d'éviter l'anthropomorphisme, c'est-à-dire prêter à l'animal des intentions comparables à celles des humains. Pour nous accompagner, deux invités, le professeur en sciences naturelles Jean-Baptiste de Panafieux et la journaliste Diane Galbeau-Dufort. Nous attendons toutes vos questions et réactions au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Il y a évidemment un animal qui vous inspire pour enseigner la philosophie. C'est la chouette, hein, c'est ça?
Exactement, mais ce matin on va plutôt parler des grands singes et notamment essayer de trouver une nouvelle manière de considérer notre différence par rapport à ces grands singes.
Et on retrouve votre ordonnance philosophique vers 11h25. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
Bonjour Jean-Baptiste de Panafieux.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé en sciences naturelles, spécialiste en génétique. Bonjour Diane Galbeau-Dufort.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, longtemps spécialisée en éducation, notamment au Monde. Et vous consacrez un livre qui s'appelle « Éduquer ses enfants comme un renard ». Un livre... Pourquoi ce livre, tiens? Parce que c'est quand même assez étonnant de se dire que vous allez vous inspirer des animaux pour nous inciter à mieux éduquer nos enfants.
Oh, c'est l'aboutissement provisoire d'un long chemin sur la comparaison entre l'être humain et les animaux. Observer les animaux avec l'idée de regarder ce qu'ils ont de commun avec nous, c'est assez passionnant.
Alors, dès sa naissance, la fourmi sait comment faire. Elle semble suivre un algorithme de vie. Chez les insectes, chez les coléoptères, la vie est simple et généralement courte. Chez les humains, c'est une autre histoire. C'est plus laborieux. Laborieux dans le sens qui coûte beaucoup de peine de travail. À notre naissance, nous sommes totalement démunis, contrairement à la fourmi.
Oui, pratiquement tout ce que nous sommes capables de faire à l'âge adulte, nous l'avons appris. Il y a très peu d'éléments que nous savons, très peu de choses que nous savons faire dès notre naissance. Nous savons téter, ce qui est important.
Et nous devons tout apprendre.
Et tout le reste, nous l'apprenons.
Mais dites-nous quoi, par exemple?
Bah, par exemple, nous apprenons notre langue maternelle en écoutant les autres. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est... Personne ne va chercher à enseigner à l'enfant sa propre langue. Ça se fait naturellement, d'une certaine façon. L'enfant va marcher. Là aussi, personne ne va lui montrer comment marcher. C'est lui qui va observer et qui va essayer d'imiter les adultes.
Diane Galbeau-Dufort.
C'est des apprentissages qui commencent même avant la naissance. Puisque Jean-Baptiste parlait du langage, eh bien le bébé humain apprend déjà à repérer les sons de sa langue maternelle alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Et en fait, on l'a constaté parce qu'on a fait des études sur des bébés français et allemands et on a vu que les cris des nouveau-nés n'étaient pas les mêmes parce qu'en fait, ils suivent l'intonation de la langue maternelle. Et on a fait le même constat chez les oiseaux qui, en fait, dans leur coquille, écoutent le chant des parents et apprennent à repérer déjà les sons produits par leurs parents.
Alors, la grande question que vous posez dans votre livre, c'est la question de l'inné et de l'acquis.
Il y a un mélange d'inné et d'acquis chez les animaux comme chez les humains.
Plus qu'on ne le croit chez les animaux?
Alors, chez les animaux, il y a quand même quelque chose qui est assez fort et qui est commun d'ailleurs avec les humains. On n'emploie pas le même terme chez les animaux et chez les humains. Chez les humains, on va parler de l'attachement et chez les animaux, plutôt de l'empreinte. Alors moi, je peux vous parler des humains parce que je me suis surtout occupée de la partie sur les humains. Jean-Baptiste, lui, c'est plutôt les animaux. Et l'attachement, en fait, c'est ce qui fait qu'un bébé va s'attacher à la personne ou aux personnes qui vont s'occuper de lui. Et ça, c'est indispensable parce que comme il est totalement dépendant de ses parents, c'est ce qui va assurer sa survie. Et on observe la même chose, en fait, chez les animaux.
Jean-Baptiste de Panafieux.
Oui, c'est une ancienne observation. Les jeunes oiseaux qui, à leur naissance, vont s'attacher au premier objet mouvant à côté d'eux, c'est-à-dire leur mère, en fait. Si leur mère n'est pas là, ils vont s'attacher à autre chose. Si c'est un humain, ils vont s'attacher à un humain. L'important pour eux, c'est, et ça c'est automatique, c'est suivre quelqu'un qui est forcément leur mère, puisque ce qui bouge à côté d'eux lorsqu'ils sortent de l'œuf, c'est leur mère. Et ça va leur permettre d'imiter ensuite leur mère. Il y a une part d'éducation qui va consister à l'imitation de ce que font les adultes.
La majorité des espèces animales mixent une part d'apprentissage et une part d'instinct.
Ah oui, ça, de manière très très générale, il y a toujours une part d'apprentissage, même chez les insectes ou les vers, etc. Il y a toujours quelque chose qui est appris en cours au cours de leur existence.
Alors, il existe des espèces animales qui vivent des relations d'éducation comparables aux nôtres. Il existe beaucoup plus de similitudes qu'on ne le croit.
Alors, il y a beaucoup plus de similitudes. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, il faut pas faire preuve d'anthropomorphisme. On a beaucoup de mal on ne peut pas prêter des intentions aux animaux de façon simple. On les observe et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Pour ça, des chercheurs ont essayé de définir des critères qui vont permettre de parler d'enseignement. Par exemple, si l'adulte change de comportement face à un petit. Là, déjà, c'est un premier point. S'il agit toujours de la même façon et que le petit l'imite, est-ce qu'il y a vraiment enseignement ? C'est pas évident. Donc, il faut que l'adulte change. Il faut que l'activité qu'il a avec le petit lui coûte. Un prédateur qui va apporter une proie vivante à son petit pour lui permettre d'apprendre à chasser, la proie risque de s'échapper. Ça a un coût pour l'adulte. Ça, c'est un critère important. Est-ce que le petit apprend mieux avec son parent ou l'adulte avec lequel il est que s'il agissait tout seul ? Encore un critère. Donc, avec ces éléments-là, on peut définir un processus d'éducation chez l'animal.
On peut parler de stratégie éducative consciente chez les animaux ?
Consciente. Les éthologistes, les spécialistes du comportement animal, se posent pas la question de cette façon-là, parce que on peut pas savoir ce que pense l'animal. Donc, on observe ce qu'il fait et on regarde les résultats de son action.
Et c'est vrai que comprendre comment les animaux éduquent leurs petits peut s'avérer ardu. Prenons l'exemple des cétacés qui sont zoologiquement très différents de nous. Les éthologues ne comprennent qu'une toute petite partie de leur communication.
Oui, ce sont des animaux particulièrement difficiles à étudier. Mais alors, ça fait des années, des décennies qu'on essaye de comprendre, par exemple, leur langage. Et on a pu quand même apprendre des choses sur, par exemple, la façon dont le jeune dauphin acquiert ce qu'on appelle sa signature sifflée.
C'est-à-dire,
c'est une espèce un son particulier qu'il apprend à émettre et qui est une façon de dire « c'est moi qui parle ». Sous l'eau, c'est compliqué de savoir d'où vient un son et qui émet une parole. Et là, le dauphin, chaque dauphin, va, au cours de ce qu'il produit comme son, émettre ce son-là particulier. Et c'est sa signature, c'est lui qui parle. Et ça, il va le faire en apprenant au contact des autres adultes, et il va construire sa propre signature en utilisant surtout des sons un peu éloignés, c'est-à-dire de dauphins qu'il entend peu. Et comme ça, sa propre signature sera assez différente des autres dauphins de son groupe.
Quel est le but de la parentalité chez les animaux, si tant est que l'on puisse parler de parentalité ? C'est assurer la descendance avant tout, assurer la transmission des meilleurs gènes, quitte parfois à sacrifier un petit.
Oui, alors ça, c'est de toute façon, là, c'est pas conscient du tout. Oui. C'est complètement inné. Le but d'une génération, c'est de donner naissance à la génération suivante. Et là, les gènes jouent un rôle essentiel. De toute façon, si on a des gènes qui ne nous poussent pas à ça, ces gènes-là disparaissent. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir des descendants. Ça se fait vraiment tout seul.
Ce qui est intéressant dans votre livre très pédagogique, c'est que vous montrez une grande similitude de comportement, évidemment, entre nous et les grands singes, hein, les gorilles, les chimpanzés, qui sont nos plus proches cousins. Et au-delà des grands singes, certains oiseaux, certains mammifères, certains insectes peuvent également nous donner des leçons de parentalité.
Oui, alors, on connaît mal les grands singes, ils sont pas faciles à étudier. Les chimpanzés et les gorilles vivent dans des profondes forêts, donc il y a des gens qui travaillent dessus depuis très longtemps, mais on apprend beaucoup de choses chez d'autres animaux comme les oiseaux et des petits singes, et on a appris des choses absolument étonnantes sur la façon dont les parents éduquent leurs petits dans d'autres espèces.
Comment est née l'idée de votre livre qui pourrait paraître artificiel, voire saugrenu, Diane Galbeau-Dufort?
En fait, on a constaté que, par exemple, aux États-Unis, il y a des livres sur ce type de sujet. En France, je ne suis pas sûre, pour le moment, il y a un livre comparable.
Comment c'est né ?
En fait, c'est né de discussions avec l'éditeur. On s'est dit que ça serait intéressant d'avoir une approche sur l'éducation. Il y avait eu un précédent livre auquel, là, je n'avais pas participé, mais Jean-Baptiste peut vous en parler, qui portait plutôt sur
la séduction
chez les animaux et chez les humains. Donc, en fait, dans l'idée d'une série, après la séduction, l'éducation.
Jean-Baptiste de Panafieux.
Oui, la séduction aboutit parfois à la naissance d'enfants, et cette comparaison, elle est très porteuse d'idées. Alors, il ne s'agit pas du tout d'imiter les animaux, mais pour moi, c'est plutôt cette idée que le monde animal nous ressemble beaucoup plus qu'on ne le croit. Si on regarde vraiment précisément leur comportement, on est assez stupéfait.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, c'est une façon de modifier un petit peu la façon dont, pendant très longtemps, on a considéré le monde animal comme au contraire ce dont il fallait se détacher. Il y a un certain humanisme, une certaine conception de l'humain qui s'est construite, au contraire, sur la négation de l'animalité et la manière de rejeter l'animal dans une sorte de silence et de d'inconscience totale.
Oui, cette façon de voir devrait permettre d'aboutir aussi à un meilleur traitement envers les animaux. C'est-à-dire, si on les voit différemment, plus proche de nous, on va peut-être aussi modifier notre comportement de prédation ou des mauvais traitements qu'on peut leur faire subir.
Vos animaux ont-ils un jour inspiré l'éducation de vos enfants? N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. Mais je pense au chat, par exemple, le chat qui peut nous apprendre à nous déconnecter, à prendre notre temps, à paresser.
À n'en faire qu'à sa tête.
Exactement. Alexia Rivière, Claire Destacan et Julia Macarès m'ont aidé à préparer cette émission réalisée par Stéphanie Texier. Je vous propose d'écouter une chanson de 1967. Cette année-là naissait le chanteur de Nirvana, Kurt Cobain, et disparaissait la divine Françoise d'Orléac. Le temps d'une chanson, si vous étiez né, souvenez-vous de ce que vous faisiez en 1967. Vous n'étiez pas né, vous, Thibaut de Saint-Maurice.
Viens, suis-moi. Je connais une route d'émail qui mène au pays de perles et de corail. Je suis un bébé requin au ventre blanc, aux dents nacrées. Dans les eaux chaudes, je t'entraînerai, et sans que tu le saches, avec amour, avec douceur. Moi, joli bébé requin, je vais te dévorer le cœur. Bébé requin, bébé velours, bébé requin, bébé d'amour. Bébé requin, bébé velours, bébé requin, bébé d'amour. Sur les vagues, je vais te faire descendre dans un ciel de sable. Je suis un bébé requin au ventre blanc, aux dents nacrées. Dans les eaux chaudes, je t'entraînerai, et sans que tu le saches, avec amour, avec douceur. Moi, joli bébé requin, je vais te dévorer le cœur. Bébé requin, bébé velours, bébé requin, bébé d'amour. Bébé requin, bébé velours, bébé requin, bébé d'amour. Pour te garder, moi je me battrai contre mes sœurs. Je veux être la seule à te manger le cœur. Sache avec amour, avec douceur.
France Gall interpréter Bébé Requin.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h21 et nous explorons ce matin les similitudes en matière d'éducation et d'apprentissage chez les humains et les animaux avec nos deux invités, le professeur agrégé de sciences naturelles Jean-Baptiste de Panafieux et la journaliste Diane Galbeau-Dufort.
Tu veux que je te dise, toi ? Tu me plais. Comment tu t'appelles ?
Mowgli. Et il va immédiatement aller au village des hommes.
Comment au village des hommes ? Ils vont le gâcher. Ils vont faire de lui un homme.
Oh, Balou, je veux rester ici avec toi.
Ouais, tu parles que tu restes.
Oh, et de quelle façon crois-tu qu'il arrivera à survivre ?
De quelle façon il va survivre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? De quelle façon je... Il est avec moi, n'est-ce pas ? Et je vais lui apprendre tout ce que je sais.
Eh bien, oh, ça sera vite fait.
Écoute. Écoute ce que je vais te dire, mon petit bonhomme. Tout ce que tu as à savoir, c'est que...
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons. Et toute la jungle et ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon. C'est
joyeuse leçon anthropomorphique dans le livre de la jungle de Disney, à Thibaut de Saint-Maurice. L'ours Balou est un véritable disciple d'Épicure pour élever le jeune Mowgli. Hein.
Ouais, d'abord, il y a toute l'enfance là qui remonte d'un coup. Oui, il en faut peu pour être heureux et savoir se satisfaire du nécessaire. C'est quasiment du Épicure dans le texte. Hein. Une sorte de frugalité, d'un plaisir naturel et qui est le seul à ne jamais pouvoir nous décevoir parce qu'il est naturellement limité. Donc c'est une assez belle leçon d'éducation. Ouais.
Et, l'ours Balou m'a éduqué.
L'ours Balou a éduqué. Et d'ailleurs, enfin, c'est une question qu'on peut poser, mais on en parlait un petit peu dans le disque. Mais c'est celle de ces cas d'enfants un peu documentés. On appelle les enfants sauvages, dont on suppose que certains sont éduqués comme ça par des animaux, des loups ou quoi. Vous avez l'air dubitatif,
Jean-Baptiste de Panafieux.
Oui, parce que je crois qu'on sait pas vraiment comment ils ont été éduqués ou non éduqués en réalité. C'est-à-dire que vivre comme un loup, c'est apprendre aussi un certain nombre de compétences très particulières. Il faut être capable de galoper derrière un lapin, puis ensuite savoir quel lapin manger précisément, parce que tout, enfin, je dis lapin, mais toutes les proies sont pas un porc-épic, c'est pas génial comme proie. Les petits lions apprennent et ont des difficultés à apprendre à se nourrir d'un porc-épic.
Pierre nous demande ce qu'est l'instinct animal. C'est quoi, Jean-Baptiste de Panafieux?
Oh, c'est un vieux mot qui est très flou. Instinct, ça veut dire quelque chose que l'animal fait spontanément. Alors si c'est complètement spontané, c'est inné, c'est ce qu'on appelle l'inné, c'est-à-dire ce que l'animal sait faire dès sa naissance. Mais bon, souvent c'est un mot qui est juste là pour masquer notre ignorance de la façon dont il agit et des raisons pour lesquelles il agit d'une certaine façon.
Alors une araignée construit spontanément sa toile sans avoir rien appris. À l'inverse, le chimpanzé ne saura pas attraper des termites si les adultes du groupe ne lui montrent pas comment faire. En matière d'inné, les facteurs liés à l'environnement peuvent influencer l'expression des gènes.
Alors, l'environnement peut agir sur les gènes d'une certaine façon. Ce qu'on constate malgré tout, c'est que l'environnement est essentiel pour un jeune. Je vous donne un exemple. On intervertit les œufs de deux mésanges, les mésanges bleus et les mésanges charbonnières, qui vivent dans les jardins mais pas au même niveau et qui ne se nourrissent pas au même endroit dans les jardins ou dans les forêts. Et les petits d'une mésange d'une espèce mis dans le nid d'une autre espèce vont agir comme dans leur espèce d'accueil. C'est-à-dire, quel que soit leur gène, ils vont se comporter comme leurs parents adoptifs et vont chercher ensuite leur conjoint chez leurs parents adoptifs, dans l'espèce adoptive, quel que soit leur gène. On a tendance à surestimer souvent l'action des gènes.
Certains comportements sont déjà présents hein, chez le nouveau-né animal. Je pense évidemment à l'araignée qui sait dès sa naissance tisser sa toile. Mais ces comportements peuvent être orientés par les circonstances. Je pense au célèbre oie de Conrad Lorenz, le célèbre éthologue autrichien. Racontez-nous cette expérience célèbre.
Alors cette expérience effectivement était célèbre et c'est celle dont nous parlions un petit peu tout à l'heure. C'est ces oies qui sont qui naissent à proximité d'un être humain considèrent cet être humain comme leur mère et vont suivre l'homme en question. Et on a plein de photos maintenant qui nous restent de Conrad Lorenz suivi par ses oies ou nageant avec ses oies. Et ça c'est vraiment un exemple d'empreinte. Et là, ce sont pas les gènes, c'est vraiment l'environnement qui détermine le comportement de ces jeunes oies.
Et ça se produit entre 13 et 16 heures après l'éclosion. Hein,
alors, il y a des moments, il y a une fenêtre, effectivement, importante. Après, l'oie ne va plus apprendre les choses de la même façon.
Est-ce qu'on observe ce genre de choses chez les mammifères et chez les bébés humains?
Alors, chez les mammifères, la mère est de toute façon essentielle, puisqu'elle allaite son petit. Mais chez quelques mammifères, on voit le père s'occuper aussi de ses petits, notamment chez les petits singes américains, où lorsque la mère a deux petits, ce qui est assez fréquent, le père doit s'occuper d'un de ses petits. Et ensuite, ce qu'on constate, c'est que le petit, s'il est effrayé, il va se réfugier dans les bras de son père et non pas de sa mère, même si c'est toujours sa mère qui l'allaite, bien entendu.
Diane Galbeau-Dufort, comment se manifeste l'inné à la naissance chez le bébé humain?
Alors, l'inné, le bébé a certains réflexes de marche. On peut faire marcher un nouveau-né, mais ça va disparaître assez rapidement.
Ce sont des réflexes dits archaïques. Hein.
Voilà,
des réflexes archaïques. La succion, l'agrippement, la nage.
La nage aussi, mais ça disparaît assez rapidement. Après, il a tout à apprendre. Et à la différence des animaux, cet apprentissage va être beaucoup plus lent. Parce que le bébé humain, il naît finalement comme s'il était prématuré. Son développement n'est pas achevé. Son développement cérébral, son développement musculaire, ce qui explique que, par exemple, il lui faille un an, voire plus d'un an, pour apprendre à marcher. Il va d'abord apprendre à s'asseoir, à se redresser, à marcher à quatre pattes, et puis ensuite, enfin, à marcher debout. C'est extrêmement long, beaucoup plus long que pour les animaux, qui, quelquefois, vont marcher une demi-heure après leur naissance.
Là, ça dépend vraiment des animaux. On a tendance à dire l'homme et l'animal. En fait,
par
il y a l'homme et les animaux.
Bien sûr.
Et évidemment, un jeune cheval, un jeune poulain va savoir marcher quelques heures après sa naissance. Il saura marcher. C'est indispensable dans sa vie, si on voyait les chevaux sauvages. Mais chez d'autres animaux, ça va être très différent. Chez un jeune chimpanzé, même la marche va faire l'objet d'un apprentissage. Et l'apprentissage du jeune chimpanzé va s'étaler sur des années. C'est pas totalement comparable au bébé humain, mais pratiquement tout sera appris aussi.
Et là, l'exemple des animaux est intéressant parce que tu cites la marche et justement, quelquefois, les parents humains peuvent être tentés d'accélérer les choses,
oui.
De vouloir mettre le bébé assis alors qu'il n'est pas prêt pour être assis, de vouloir lui tenir la main pour essayer de le faire marcher. Et en fait, c'est pas bon parce que le bébé risque de perdre la confiance en lui. Et on pourrait effectivement regarder les singes qui eux
les babouins,
encouragent.
Les gorilles.
Voilà, ils encouragent leurs petits. Ils se placent un petit peu devant le petit. Ils l'encouragent avec des claquements de lèvres. Ils vont se retourner pour voir si le petit suit. Et finalement, c'est une bonne méthode.
Inspirons-nous
oui,
des gorilles.
L'encouragement, c'est vraiment important, oui. Plus que de montrer ce qu'il faut faire.
Bienvenue, Gaëlle.
Oui. Allô. Bonjour.
Bonjour, Gaëlle.
Bonjour. Oui, moi je voulais témoigner parce que ça résonne un petit peu avec ce que j'ai vécu. Je suis devenue maman il y a 8 ans. Au départ, j'ai pas voulu parcourir trop de manuels ou de livres. J'ai souhaité attendre d'avoir mon bébé et puis de voir ce que la vie allait nous réserver. Et puis j'ai dû subir une naissance assez médicalisée. Et ensuite, petit à petit, j'ai commencé vraiment à écouter ce qui se passait en moi et à observer mon bébé. Et je me suis petit à petit rapprochée de ce qu'on appelle le maternage proximal.
C'est quoi exactement?
Alors, c'est ce qui m'a le plus parlé. Donc, il y a différents ouvrages qui en parlent. C'est un ensemble de pratiques. Parmi celles-ci, il y a par exemple le fait de porter son enfant dès sa naissance, donc dans des écharpes ou des porte-bébés physiologiques. Donc le fait de garder le nouveau-né le plus possible en proximité physique avec ses parents, ça peut être son père ou sa mère, et puis de le garder, de le porter dans la vie quotidienne, et puis c'est que pour les déplacements, plutôt que de le mettre dans une poussette ou un landau, de le garder en contact physique. Il y a bien sûr l'allaitement, évidemment. Il y a le fait de dormir avec son bébé, c'est-à-dire d'écouter le fait que l'enfant demande à ne pas être seul dans son sommeil. Le fait de le masser aussi. Et puis, ça résonne avec ce que vous étiez en train de dire aussi sur la motricité libre, c'est-à-dire le fait de laisser son enfant s'asseoir tout seul, se retourner tout seul, puis s'asseoir tout seul, puis commencer à bouger tout seul, en intervenant le moins possible, en essayant pas de gagner des étapes, justement. Dans ce même mouvement, il y a aussi ce qu'on appelle la diversification menée par l'enfant, c'est-à-dire le fait de laisser l'enfant découvrir la nourriture avec ses mains, au départ, et qu'il les porte à la bouche, des gros morceaux, plutôt que de lui donner des purées. Mmh. Et tout ça, finalement, pour moi, quand on fait ça, c'est un petit peu faire comme font les animaux, finalement. C'est-à-dire, chez la plupart des mammifères, les petits dorment avec leurs parents, ils apprennent à manger par eux-mêmes en imitant les grands. Ça me semble tout à fait des comportements parallèles.
Jean-Baptiste de Panafieux.
Oui, ce qui est intéressant dans la comparaison, c'est aussi le jeu entre ce que on enseigne effectivement à l'enfant et puis ce qu'il doit découvrir lui-même. C'est cette autonomie qu'on offre à l'enfant. Et ça, on le voit chez les animaux de façon très nette. À côté de l'enseignement direct, le jeune est amené à apprendre lui-même beaucoup de choses.
Gaëlle nous montre qu'elle met en place très tôt un lien d'attachement très fort avec son bébé Diane Galbeau-Dufort.
Alors là, ce qui est intéressant, je trouve, c'est en particulier le contact physique qui est très important, aussi bien chez les humains que chez les animaux. Alors, je vais prendre des exemples chez les animaux. On a observé que chez les rats, les mères qui lèchent beaucoup leurs petits, bien finalement, ça va avoir un effet positif sur le stress. Le petit va être moins stressé, va être plus calme que les autres petits rats. Chez les singes aussi, le contact entre la mère et le petit va avoir un effet positif sur le petit singe qui va être plus sociable et plus autonome. Et bien sûr, chez les humains aussi, le contact physique est très important. Câliner son bébé, c'est vraiment essentiel.
Et ça laisse une signature épigénétique dans l'ADN de certains animaux, hein, ces soins.
Chez les rats, effectivement, on a observé, quand je parlais de la mère qui lèche son petit, effectivement, on a observé que ce léchage active un gène qui produit une protéine qui diminue la concentration d'hormones de stress. Mmh. C'est pour ça que le petit rat est plus calme que les autres rats.
Jean-Baptiste de Panafieux.
Oui, on l'observe chez beaucoup d'animaux, notamment chez les singes. Moi, ce qui m'intéresse aussi là, c'est la façon dont les choses évoluent au cours du temps. Et on voit que le petit singe est profondément attaché à sa mère, à tel point qu'elle va avoir du mal à lui laisser. Elle sera obligée de le pousser plus loin d'elle, et lui va mal supporter cette séparation à l'adolescence.
Comment on sait qu'il le supporte mal?
Il refuse d'être mis à l'écart. Surtout quand arrive un nouvel enfant, un nouveau petit, le jeune va reprendre des comportements infantiles, va se cramponner à sa mère et elle va le repousser, parfois violemment. Il faut qu'elle l'habitue à prendre son autonomie, prendre son envol. Et lui, dans certains cas, va montrer des signes proches d'une dépression.
Diane Galbeau-Dufort.
Et selon les espèces, je pense aux singes, quelquefois la mère va même pratiquer une forme de punition. Les macaques qui vont mordre leurs petits justement pour les éloigner. Et ce qui est intéressant, c'est que là on observe différents modes d'éducation comparables aux humains. Il y a des animaux qui vont se montrer sévères et qui vont punir, alors que d'autres vont être plus tolérants. Le macaque, je crois, est plus sévère par exemple que le babouin.
Ce qui est intéressant, c'est que même chez des animaux très proches, par exemple différentes sortes de macaques, différentes espèces de macaques, on va avoir des comportements extrêmement différents d'une société à l'autre. Et ça, ce sont des comportements qui sont complètement acquis, c'est une culture animale. Certains macaques vont être très tolérants avec les petits, accepter qu'ils viennent embêter les adultes et d'autres. Et puis d'autres, si le petit s'approche d'un adulte, d'un mâle adulte, il se fera mordre et il recommencera pas.
Gaëlle, vous vouliez réagir?
Oui, je voulais compléter un peu ce qui était en train de se dire, parce que moi, d'après mon observation personnelle, donc sur mes trois enfants et puis celle des gens que je connais qui sont un petit peu dans le même état d'esprit, c'est plutôt de se rendre compte que les enfants qui ont un attachement fort sont des enfants sécurisés. Mmh. Qui ont confiance en eux, qui sont paisibles et qui du coup ont les capacités de partir à l'aventure, de prendre des risques, de s'éloigner provisoirement de la personne à laquelle ils sont attachés, pour en sachant qu'ils pourront y revenir plus tard. Et je pense que ces pratiques-là aussi favorisent l'autonomie des enfants. Et c'est ce que j'observe.
Et c'est ce que répète le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, qui, ne l'oublions pas, est également un éthologue, c'est-à-dire un spécialiste du comportement des animaux. Merci beaucoup, Gaël, de nous avoir appelé. Alors, Thibaut de Saint-Maurice, votre animal, l'animal des philosophes, c'est la chouette, mais vous avez décidé d'évoquer un autre animal ce matin, c'est le singe, au menu de votre ordonnance philosophique.
Oui, Ali, avec un petit traitement sur cette ordonnance, qui risque de renverser peut-être pas mal de croyances, voire même de certitudes sur la différence entre l'homme et l'animal, entre l'homme et les animaux, et qui fait écho à ce que nous disons depuis le début de l'émission sur ces points communs entre l'homme et l'animal du point de vue de l'éducation. Alors, jusqu'à présent, les philosophes ont plutôt insisté sur tout ce qui permettait de penser la différence de l'homme, tout ce qui permettait de le distinguer de l'animal. Alors, avec Aristote, par exemple, c'était le langage, la conscience ensuite, la vie en société, la liberté, ou encore la faculté de se perfectionner, comme le pensait Rousseau. Alors, l'avantage, c'est que tout ça, ça a permis de poser la question de ce qui fait notre humanité. L'inconvénient, c'est que ça peut avoir tendance à faire prendre à l'homme la grosse tête, en lui fichant un sacré complexe de supériorité.
Alors, qu'est-ce qui change aujourd'hui? Comment soigne-t-on cette grosse tête?
Eh bien, comme souvent, ce qui change la donne, c'est le travail patient d'un ou de plusieurs scientifiques qui prennent le temps d'observer les choses avec des hypothèses nouvelles. Alors, je voudrais signaler ici le travail de Franz De Waal, primatologue et éthologue, donc spécialiste de cette observation du comportement des animaux, et dont je vous recommande la lecture d'un des livres, il en a écrit de nombreux, mais par exemple, Le singe en nous, ou bien celui-ci, Le bonobo, Dieu et nous. Voilà, tout le travail de Franz De Waal consiste à montrer la continuité entre les comportements humains et les comportements animaux des grands singes, et notamment la continuité sur le plan émotionnel, moral et politique. Alors, bien sûr, les chimpanzés ou les bonobos n'ont pas de grandes discussions éthiques sur tel ou tel principe de vie. Mais ce que montre Franz De Waal, c'est que nos comportements moraux s'enracinent en fait dans des comportements primaires d'expression de nos émotions, de régulation de ces émotions et de souci d'appartenance au groupe. Et puis que les grands singes, en fait, ont des comportements similaires. Ainsi, la morale ne vient pas de discussions raisonnées, mais plutôt de pratiques reconnues depuis toujours comme étant bénéfiques pour la survie du groupe. Il montre par exemple, Franz De Waal, dans le détail, la manière dont différentes espèces de grands singes produisent de véritables comportements de réconciliation. Il décrit aussi les comportements d'attachement, de recherche de sécurité et de coopération de ces grands singes entre eux. En fait, ce travail est fascinant parce qu'il conduit à réviser profondément donc notre pensée de la relation entre l'homme et les animaux, et puis du coup aussi à réviser l'animalité en nous. Parce que couramment, on accuse l'animal en l'homme, vous savez, pour pointer un comportement mauvais, violent ou, comme on dit, bestial, justement. Dire d'un homme qu'il se comporte comme un animal, c'est rarement un compliment. Bah, en lisant Franz De Waal, on comprend que l'inverse est possible et que l'animalité en nous est aussi responsable de comportements moralement valorisés. Voilà. Alors, au lieu de faire de l'éducation la négation de l'animalité en nous, comme l'a pensé, par exemple, toute la philosophie des Lumières, on pourrait faire de l'éducation l'occasion d'épanouir en chacun de nous le meilleur de l'animalité.
Vous pouvez lire Franz De Waal, mais vous pouvez également réécouter l'émission que nous avions faite avec Franz De Waal le 19 novembre dernier. L'émission s'appelait « Partageons-nous les mêmes émotions que les animaux ?» L'ordonnance philosophique de Thibaut de Saint-Maurice, à voir en vidéo sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Allez, vous pouvez participer à notre conversation. Posez vos questions au 01 45 24 7000.
hear me understand. Oh,
Black Pumas interprété Fire.
Ali Rébéi, grand bien vous fasse, sur France Inter.
10h43, quelles sont les similitudes dans l'éducation de nos enfants chez les humains et chez les animaux? C'est notre thème ce matin avec nos deux invités, le professeur de sciences naturelles Jean-Baptiste de Panafieux et Diane Galbaud-Dufort qui viennent de publier « Éduquer ses enfants comme un renard ». Et nous accueillons Sylvie. Bienvenue Sylvie.
Oui, bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous inspire notre conversation ce matin?
Alors, ce qu'elle m'inspire, c'est que j'ai une grande pensée pour mon papa, qui avait fait une thèse de doctorat de sciences sur le comportement parental chez les corvidés. Ça date des années 68-70. Et le travail d'une thèse, ça envahit un espace familial, donc il nous expliquait un petit peu comment ça se passait chez les corvidés, et il nous expliquait que les parents corvidés, puisqu'il n'y avait pas de rôle de papa ni de rôle de maman, c'est le couple, faisait en sorte que tous les petits soient en autonomie le mieux possible, quitte à pousser les petits hors du nid, surtout le plus faible, pour qu'il apprenne à voler en assurant sa réception en bas. Hein. Et il nous avait dit, vous voyez, mes enfants, mon rôle de papa sera réussi quand vous-même vous quitterez le nid. Et je ferai tout pour que vous quittiez le nid, quitte à ce que ça soit peut-être quelquefois difficile pour vous, mais il faut quitter le nid pour grandir et pour être, pour devenir des adultes. Et moi, du coup, le jour où j'ai accouché de mes filles, c'est la première pensée. Je me suis dit, ben voilà, ton travail maintenant, c'est qu'elles quittent le nid. Et je l'aurais tellement, bien sûr, je les aime, je les ai accompagnées, j'ai eu le pincement au cœur quand elles ont quitté la maison, mais je me suis dit, ben voilà, j'ai réussi, et ma fille aînée, qui a deux enfants, elle est dans cette même optique. Mes enfants, pourtant, elle les adore, elle les couve, elle est là, mais mes deux enfants, j'aurai réussi mon rôle de maman quand ils quitteront le nid et qu'ils pourront vivre de leurs propres ailes, c'est le cas de le dire dans le cas des corvidés.
Et certains parents connaissent le syndrome du nid vide hein, quand les enfants quittent le foyer familial. Jean-Baptiste de Panafieux, votre réaction à ce joli témoignage de Sylvie?
C'est une très ancienne pratique que d'observer les animaux et de chercher des comparaisons, des exemples, des modes des comportements chez les animaux qu'on voit de façon positive, et on va interpréter leur comportement en essayant parfois de les imiter ou au contraire de faire l'inverse, puisque nous ne sommes pas des animaux, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais ce jeu est souvent un jeu, alors pas dans ce cas-là, puisque le conjoint de madame étudiait les corbeaux, mais souvent
le père,
on
le père
a
de
envie
madame,
de voir... oui, le père. on a souvent envie de voir, de nous voir nous-mêmes chez les animaux. En fait, il faut vraiment les observer précisément pour ce qu'ils sont et pas comme une espèce de miroir de notre humanité.
Merci beaucoup Sylvie d'être intervenue ce matin. Alors dans le règne animal, les techniques d'apprentissage sont très diverses. Je pense au jeu, Jean-Baptiste de Pinfieux, jeu de locomotion, jeu avec des objets, jeu avec des proies, jeu avec la nourriture et même jeu collectif. Et pour les animaux, le jeu, c'est une affaire sérieuse.
Alors le jeu, c'est très difficile à interpréter déjà. On va comparer avec ce qu'on connaît chez les jeunes humains, parce que là, on sait définir le jeu. Mais même chez les jeunes humains, c'est compliqué. Un jeu, est-ce que c'est juste pour s'amuser ou est-ce que c'est pour définir qui sera dominant dans un groupe, par exemple? Dans les crèches, on va voir des comportements tout à fait surprenants et on va voir s'instaurer une espèce de hiérarchie, entre guillemets, avec des enfants qui vont avoir des comportements différents, les uns étant meneurs, d'autres plus avoir envie de suivre, etc. Chez les animaux, comment interpréter un jeu où les petits vont se poursuivre, se mordiller, se mordre parfois? Est-ce qu'ils apprennent à courir, à sauter, à se battre? Est-ce qu'ils sont en train d'élaborer leur propre hiérarchie? Qu'est-ce qui est en train de se passer chez eux? Il y a très peu, quelques semaines, des chercheurs ont annoncé qu'ils avaient fait des expériences avec des rats adultes et qu'ils avaient appris aux rats à jouer à cache-cache. Et manifestement, les rats appréciaient cette nouveauté et étaient prêts à jouer même sans récompense alimentaire.
Diane Galbeau-Dufort.
Alors, sur les jeux, tu parlais des crèches. Moi, je pense aux cours de récréation, parce qu'il y a une chercheuse qui s'est intéressée aux cours de récréation. Et là, effectivement, c'est assez intéressant parce qu'on retrouve des comportements qu'on observe aussi chez les animaux, avec des enfants leaders dans les jeux, qui vont être respectés par les autres tant qu'ils n'abusent pas de leur pouvoir. Pourquoi? Parce que ils instaurent une dynamique de jeu, une situation de paix. Et finalement, les enfants s'accommodent très bien d'avoir un leader dans les jeux. Et les jeux humains rappellent finalement les jeux des animaux. Il y a des jeux de poursuite. Mmh. On joue à chat, il y a des chats et des souris, des loups. Il y a des jeux d'imitation aussi, que pratiquent les animaux.
Alors, chez les humains, les méthodes d'éducation bienveillante et les pédagogies actives sont de plus en plus prisées, au détriment d'une éducation plus autoritaire. Est-ce qu'il existe des formes de pédagogie active chez les animaux, sans le savoir, évidemment? Je pense à la loutre.
La loutre qui lâche
dans l'eau une proie encore vivante pour que les petits l'attrapent. C'est une forme de pédagogie active?
Parce qu'ils apprennent, là, en faisant. Donc, c'est le principe de la pédagogie active. Effectivement, la loutre, elle va attraper une proie. Mais je crois que ce n'est pas le seul animal à faire ça, d'ailleurs.
Oui,
une proie vivante pour que le petit apprenne à l'attraper lui-même et à tuer la proie lui-même.
Il y a quelques exemples même assez fascinants. Il y a un petit animal qu'on appelle le suricate, qu'on voit souvent dans les films animaliers, qu'on voit se dresser sur ses pattes pour surveiller l'arrivée des prédateurs. Ils vivent en groupe et une de leurs proies favorites, alors, on ne sait pas si c'est vraiment favori, c'est le scorpion. C'est quand même une proie assez dangereuse. Et les parents vont apporter à leurs petits des scorpions morts, les pousser à manger, parfois les forcer à manger le scorpion mort, puis ils vont apporter des scorpions dont ils auront éliminé l'aiguillon ou affaibli, le scorpion aura été mordu et sera moins dangereux, et enfin apportera des scorpions vivants. C'est-à-dire qu'il y a une progression dans la façon dont ils nourrissent leurs petits, et là on peut y voir une forme d'éducation, parce que c'est adapté aux capacités des jeunes, qui apprennent à agir de façon non dangereuse avec un scorpion.
Comment se transmettent les nouveaux comportements chez les animaux? Je prends l'exemple des mésanges anglaises qui ont appris à décapsuler des bouteilles de lait afin de boire la crème liquide qui surnageait.
Alors, si je me souviens bien, il y a plusieurs types de comportements. Parmi ces mésanges, certaines l'ont fait en imitant les autres, d'autres par motivation, en voyant le lait sur le sol. Donc même là, dans ces mésanges, effectivement, c'est un exemple très frappant parce que les mésanges se sont toutes mis à ouvrir les capsules de lait et au départ, c'était très surprenant pour les humains. Donc la première idée, c'est que c'est venu par imitation, mais il n'y a pas que l'imitation. Certaines l'ont fait aussi par motivation, sans forcément avoir observé les autres le faire.
Oui, c'est intéressant parce qu'on a fait des expériences ensuite pour voir comment ça marchait. Certaines mésanges, de façon spontanée, ouvrent les bouteilles de lait. De façon complètement spontanée, mais elles sont assez peu nombreuses. Et les autres, soit les imitent, mais bon, qu'elles arrivent juste au moment où l'autre, enfin, où une autre mésange est en train d'ouvrir la bouteille, c'est assez rare. Par contre, en voyant la capsule retirée et la présence de la crème, elles conçoivent qu'il faut retirer la capsule pour pouvoir accéder à la crème.
Est-ce qu'il existe des processus similaires chez les humains ?
Bah, les humains apprennent beaucoup par imitation. On apprend tous par imitation en observant les autres. Et aussi, on peut apprendre par motivation. Souvent, l'apprentissage se fait parce qu'on va être motivé pour apprendre. On va observer un comportement qu'on va trouver intéressant, avec un résultat intéressant, et on va essayer d'adopter le même comportement. Mais beaucoup, beaucoup de choses se font par imitation.
Thibaut de Saint-Maurice ?
Oui, mais il y a bien sans doute des nouveautés, des comportements nouveaux qui sont du coup liés à ou bien une circonstance ou bien peut-être à simplement une forme de d'initiative individuelle ou personnelle.
Il y a des inventions chez les animaux, c'est ça qui est assez extraordinaire, et c'est là où on voit qu'il y a une culture. Maintenant, on parle de culture animale, même si c'est pas la même chose qu'une culture humaine, évidemment. Par exemple, cette jeune singe au Japon, dans une île du Japon, qui a découvert toute seule que tremper les pommes de terre qu'on lui donnait et qu'on lui déversait sur la plage, si elle trempait ses pommes de terre dans l'eau d'un ruisseau à côté, il y avait plus de sable sur la pomme de terre et que c'était bien meilleur comme ça. Et elle a été imitée par les autres, pas par tous. Elle a été imitée par les jeunes, par sa mère, mais les plus vieux ne se sont jamais mis à la nouveauté. Et au cours des années qui ont suivi, ils ont tous adopté le même comportement, tout le groupe a adopté le comportement, ça s'est répandu petit à petit.
Des yeux. Un tic-tac.
Alors dans son berceau, le nouveau-né nous écoute avec une grande attention. Il s'entraîne à imiter ce qu'il entend en émettant des sons vocaliques, un peu comme les oiseaux chanteurs, Diane Galbeau-Dufort.
Oui, tout à fait. Là, on peut vraiment faire un parallèle avec les oiseaux chanteurs. Il apprend petit à petit à reproduire les sons. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que les parents vont s'adresser à lui comme certaines espèces d'oiseaux le font. C'est-à-dire que quand on s'adresse à un bébé, on adapte son langage. On va ralentir le rythme, on va articuler davantage, on va répéter certaines syllabes, bobo, dodo.
C'est ce qu'on appelle le mamané. Hein.
Voilà, le mamané. Eh bien, certaines espèces d'oiseaux procèdent de la même manière. Elles ralentissent leur chant, elles articulent davantage, en fait.
Jean-Baptiste de Panafieux.
Oui, on l'a même observé chez des singes aussi, chez des gibbons, où la mère va s'adresser à ses petits en modifiant son débit jusqu'à ce que le petit réponde de la même façon, jusqu'à ce que le petit ait appris à parler.
Et dans les années 1970, des éthologues américains ont eu l'idée d'utiliser la langue des signes pour communiquer avec des gorilles ou des chimpanzés. Et chez les humains, ce langage n'est pas réservé aux malentendants. On peut l'utiliser avec les tout-petits, avec les nourrissons. Hein.
Certains parents le font. Alors c'est un langage des signes qui est très adapté, hein, qui n'a pas grand-chose à voir avec la vraie langue des signes. Mais c'est un moyen de communiquer avec l'enfant avant qu'il puisse parler. Et donc, ça peut être intéressant parce qu'il va pouvoir exprimer ses besoins. S'il a faim, s'il a besoin de dormir. Donc, on peut effectivement échanger avec lui par ce langage approprié.
Bienvenue, Marcel.
Oui, bonjour.
Nous concluons cette émission avec vous.
Eh bien, écoutez, c'est un témoignage. Voilà, j'ai eu une petite chatte au moment où mon fils avait 18 mois et on habitait une grande maison. Et quand elle a eu sa première partie de chaton, je me suis aperçue qu'elle ne laissait les chatons que lorsque j'étais dans la maison, ou le chien, mais jamais quand mon mari était là, parce que lui, il n'aimait pas les chats. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris les choses. Et puis, une deuxième chose, quand ces petits, ces chatons ont été un peu plus... Ouais, alors, pour le premier épisode, ça m'a appris comment faire confiance à la personne à qui on confie son bébé. c'est-à-dire suivre son intuition, entre autres. Hein. Et la deuxième expérience, c'est qu'elle prenait ses chatons par la peau du cou, elle les lâchait dans le jardin où on avait des herbes hautes qu'on fauchait pas. Elle restait pas très loin, mais à portée de vue. Elle les laissait se débrouiller, puis elle les récupérait, elle les ramenait dans la maison, elle les doudounait. Et ça, ça m'a appris comment... Ça m'a montré comment faire confiance d'abord au bébé et puis les laisser se développer leur autonomie, leur savoir-faire.
Merci beaucoup Marcel pour votre joli témoignage. Jean-Baptiste de Panafieux, Diane Galbeau-Dufort, vivre en société, c'est l'une des bases de l'éducation chez les animaux. Est-ce que les animaux sont mieux outillés que nous en la matière pour vivre en société?
Je sais pas s'ils
sont dans l'apprentissage de la vie en société.
Mais certains vivent en société et il y a des règles. Ça, c'est une des choses qu'on a appris justement avec tous ces chercheurs qui ont travaillé sur les grands singes, ou même les petits singes. On s'est rendu compte qu'il y avait des règles. Par exemple, il y a une règle très importante chez certains singes, pas tous, c'est le tour de parole. C'est-à-dire que les petits doivent apprendre à respecter le fait que un autre est en train de parler et ils ne doivent pas l'interrompre. S'ils l'interrompent, ils se font reprendre et ils apprennent qu'ils peuvent commencer à parler en gros une seconde après que l'autre est terminé. Si c'est plutôt, c'est une façon de l'interrompre, c'est très mal vu. Par contre, c'est autorisé malgré tout chez les petits puisqu'ils sont en train d'apprendre. Chez un adulte, ça sera vraiment très mal vu.
De quels animaux doit-on s'inspirer pour dans l'apprentissage de la vie en société?
Alors, il y a les animaux sociaux, donc je pense que c'est surtout ceux-là qui ont vraiment une organisation qu'on peut comparer à la nôtre, avec une vie en société, des rôles différents, des règles. Et en tout cas, chez les humains, c'est vrai qu'il faut rappeler que les règles, c'est très important. Favoriser l'autonomie, oui, mais avec un encadrement, avec des règles. Et cela, très tôt, un enfant doit apprendre notamment à respecter les autres. Donc l'éducation, c'est de l'accompagnement, c'est de l'encouragement, mais c'est aussi des limites.
Alors les parents transmettent de la culture à travers l'éducation, mais est-ce que c'est également le cas chez les animaux? Est-ce qu'il existe une transmission culturelle?
Oui.
C'est la conclusion de votre livre.
Bien sûr, on voit maintenant des comportements qui sont présents dans certains groupes d'une même espèce et pas dans d'autres. Donc là, on se dit, c'est pas génétique, et si c'est pas génétique, c'est appris. Par exemple, vous parliez des termites tout à l'heure que les chimpanzés apprennent à capturer. Certains groupes ne capturent pas de termites, alors que d'autres s'en servent comme une part importante de leur nourriture. C'est quelque chose de culturel. Et les chercheurs ont observé des dizaines de comportements comme ceci, qui diffèrent d'un groupe à l'autre.
Merci beaucoup Jean-Baptiste de Panafieux, Diane Galbeau-Dufort, Éduquer ses enfants comme un renard, c'est publié aux éditions Salamandre. Demain on s'intéresse aux thérapies qui prétendent changer l'orientation sexuelle des gays, des lesbiennes ou des bisexuels. Nous recevrons les auteurs d'une enquête infiltrée chez ceux qui veulent guérir entre guillemets les homosexuels, Jean-Loup Adenor et Timothée de Roguelodre. Nous recevrons également le psychiatre Guillaume Font. Témoignage, question 01 45 24 7000.